bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'aventure de Philippe et de ce voyageur qui se révèle être quelqu'un d'important, c'est l'eunuque, le fameux employé, le ministre des Finances de la reine Candace, est à la fois très imagé et très cinématographique, cette longue route poudreuse, un char, quelqu'un qui lit pendant que le conducteur essaye de d'éviter les chaos du terrain, puis cette personne s'interroge, lit à haute voix, et puis Philippe est là, voilà, une espèce de conte des mille et une nuits. Que lis-tu, comprends-tu? Oui, si personne ne m'explique, comment comprendrais-je? Alors on explique, comme Scheherazade, à qui on raconte les mille et une nuits, et qui se laisse expliquer ce qu'on raconte. Et là, nous sautons de conte oriental dans la réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Rien, si tu as la foi. Ben voilà, il y a de l'eau sur le bord du chemin, si tu veux. L'eunuque descend et Philippe le baptise et disparaît. Alors naturellement, le côté merveilleux, je l'ai dit, vient de cette façon de raconter. Mais il y a toujours quelqu'un sur le chemin, c'est ce que nous dit cette merveilleuse histoire. Si nous cherchons, quelqu'un est là qui viendra nous dire. Et puis l'épisode s'arrête. Philippe se retrouve à Azote, il va à Césarée et il continue de prêcher. Et tout de suite, nous basculons au chapitre 9 dans les aventures de Saül de Tarse. Écoutons le texte.
Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres de mission pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, c'est ainsi qu'on les désignait alors les chrétiens, il les ramènerait enchaînés à Jérusalem. La petite escouade était partie assez tôt de Jérusalem. Les gardes de la porte de Damas avaient dû l'ouvrir exprès pour eux. Il était 6 heures du soir maintenant. Ils n'avaient fait aucune halte. Le cheval arabe, court et nerveux, que montait Saul, la gueule blanche de bave, avait la fatigue noble mais sensible aux faux pas qui, de temps à autre, lui tordaient les sabots. On approchait de Damas. Cette rougeur dans l'horizon du soir, c'était les campements des caravanes qui s'apprêtaient à passer la nuit sous les murs de la ville. Soudain, une lueur venue du ciel enveloppa Saul de son éclat. Le cheval fit un écart. Saul tomba à terre en entendant une voix qui lui demandait distinctement « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »«
Qui es-tu, Seigneur ?»«
Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Relève-toi maintenant, entre en ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons s'étaient arrêtés bleus de stupeur.
Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne et avaient le plus grand mal à calmer leur monture qu'une panique de circonstances faisait hennir et se cabrer.
Saul finit par se relever, mais les yeux grands ouverts, il n'y voyait plus rien, et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas, où il demeura 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision.
« Ananias, me voici, Seigneur. Tu vas te rendre dans la rue droite et dans la maison de Judas demander à nommer Saul de Tarse. Il s'y trouve en prière et vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue.
Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et raconter tout le mal qu'il avait fait à tes saints, les chrétiens, à Jérusalem. Et ici, il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom.
Je sais. Cet homme est surtout un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour moi.
Sans perdre de temps, Ananias se mit en quête de la maison, y entra et lui imposa les mains.
« Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu sur la route, afin que tu retrouves la vue et sois rempli de l'Esprit-Saint. »
Et ce fut comme si des espèces d'écailles lui tombaient aussitôt des yeux. Il voyait à nouveau. Il reçut alors le baptême et s'alimenta pour reprendre des forces. Devant les yeux ébahis de Judas et d'Ananias, craintifs et admiratifs à la fois, d'héberger et d'agréger un disciple peu ordinaire.
Saul passa quelques jours avec les disciples de Damas, et il ne tarda pas à se mettre à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
À l'entendre, on en restait plutôt abasourdi.
« Comment ? N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquaient ce nom ?
Et il n'était pas venu tout exprès ici pour les amener, enchaîner au grand prêtre ?»
Mais Saul prenait d'autant plus d'assurance, et il confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus était bien le Messie.
Le temps passait pourtant. Le moment arriva où ces Juifs se concertèrent pour le faire périr. Le secret dut être mal gardé, car Saul, le rusé, eut connaissance de leur complot. Ils allaient jusqu'à garder les portes de la ville, jour et nuit, pour pouvoir le tuer. Mais une nuit, des disciples proches de lui le firent descendre le long de la muraille dans un couffin. Quand quelques jours plus tard, il se retrouva à Jérusalem, il essaya bien de s'agréger aux disciples de la capitale. Mais tous avaient peur de lui, et on les comprend, ils n'arrivaient tout simplement pas à le croire. Ce fut Barnabas qui le prit avec lui. Il l'introduisit auprès des apôtres à qui Saul fut heureux de raconter son incroyable aventure. Dès lors, Saul put les accompagner à travers la ville pour prêcher et enseigner. Il parlait avec les hellénistes, discourant et argumentant, mais ce groupe-là était assez obtus et à leur tour chercha à le faire disparaître. À cette nouvelle, les frères prirent la décision de l'éloigner à Césarée et de là, le firent prendre le bateau pour Tarse, sa ville natale. Ainsi, sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, l'Église vivait en paix. Elle s'édifiait et avançait dans la crainte du Seigneur, et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait.
Merveilleuse description du début de Paul, mais qui, dans sa première partie au moins, correspond comme en écho à ce qui précède. Sur la route, l'eunuque de Candace, Philippe arrive. Sur la route, Saul de Tarse, c'est Jésus qui arrive. Et ensuite, Ananias. La route, quand on se déplace, c'est ça que nous disent d'abord ces textes, est un lieu de rencontre et de surprise. C'est pour ça qu'on va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas uniquement pour aller voir cette grande, immense église et son grand encensoir géant, qui sont en fait une curiosité. Mais ce qui peut se passer entre le pont, et puis le fameux pont, et puis d'où l'on part, sur le Camino français, sur le chemin français, que l'on arrive, d'où que ce soit, que l'on arrive de Paray-le-Monial, de Conques, que l'on arrive de Vézelay, enfin peu importe la route qu'on a prise, quand on arrive ensuite sur la route, on rencontre des gens. Rappelez-vous la Voie lactée de Louise Buñuel. Donc c'est le lieu des rencontres, et des rencontres décisives. Dans les deux cas, on change de vie. L'eunuque devient chrétien, et Paul, Saül, devient chrétien lui aussi. Les parallèles ne s'arrêtent là, en ce sens que nous savons moins la vie de Philippe après coup que celle de Paul. Mais les démarrages sont les mêmes, c'est-à-dire la rencontre de quelqu'un. Une deuxième chose m'a intéressé dans ce texte, et je m'en rends compte, c'est que l'on parle des visions de Paul, dont nous n'avons d'ailleurs aucune autre preuve que celle qu'il nous donne, mais il semble que le Seigneur s'adressait assez facilement à ceux qui le servaient. Regardez Ananias, et lui aussi, il est en relation avec Jésus, qui lui dit de faire ceci, qui lui dit de faire cela, va dans la rue droite, rentre dans la maison de Judas, tu verras quelqu'un qui est là et tu lui imposeras les mains. Ça me plaît, cette familiarité avec Jésus qui vient juste de les quitter pour monter vers son Père. Il est tellement présent avec eux, marchant sur les chemins, vivant leur vie quotidienne, peut-être à cause du peu de temps qu'il y a entre ces épisodes et sa mort et sa résurrection. Cette familiarité avec la présence même du Seigneur, parti il y a peu de temps, est peut-être à retrouver. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un jour pour Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'une année? C'est comme des secondes. Il serait, pour nous, pour moi en tout cas, je le ressens très fort, de cultiver cette proximité, cette familiarité, cette convivialité avec ce Jésus de Nazareth. Ce n'est que comme cela, je crois, que l'on peut retrouver l'enthousiasme nécessaire pour avancer sur la route, nous aussi, où il viendra faire un bout de chemin avec nous.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.